réplique, rire et faire rire avec David Le Breton et François Rollin. J'aime les plaisanteries et en même temps, je trouve exorbitante la place aujourd'hui occupée par les amuseurs à la radio et à la télévision. La réduction du territoire du risible par le politiquement correct m'inquiète au plus haut point et je trouve irrespirable le climat de dérision dans lequel nous baignons. Je fais mien ce proverbe yiddish commenté par Kundera, « L'homme pense, Dieu rit ». Et je médite sans fin cette phrase de Baudelaire, « Le rire vient de l'idée de sa propre supériorité, idée satanique s'il en fut jamais, orgueil et aberration ». J'applaudis quand crève la baudruche du sérieux et les LOL, MDR et PTDR qui se déchaînent sur la toile me donnent envie de pleurer. Bref, entre le rire et le rire, mon cœur balance, mon esprit aussi, et j'ai du mal à m'y retrouver. Pour y voir clair, j'ai invité le sociologue David Le Breton, qui publie sous le titre « Rire, une anthropologie du rieur », et le célèbre professeur Rollin, à qui la patrie reconnaissante doit, entre autres bienfaits, la co-invention des guignols de l'info. Je commencerai par vous, David Le Breton, cette tentative d'élucidation. Que vous a appris votre enquête anthropologique sur les usages du rire dans nos sociétés?
D'abord, je partage votre ambivalence à l'égard du rire, hein, sur les ambiguïtés du rire, et c'était vraiment mon point de départ d'ailleurs. Mon idée n'était nullement d'écrire une anthropologie de l'humour, par exemple, parce que d'abord, beaucoup l'ont fait avec infiniment de talent, comme Bergson par exemple. J'étais plus attiré par les aspects plus nocturnes, en quelque sorte, du rire, les rires de détresse, les rires de supériorité, etc. Mais au départ, il y avait quand même une dimension un peu biographique, autobiographique. Parce que j'étais un gamin qui a énormément souffert de ses fous rires, de ses sourires. Et je me souviens d'innombrables mesures de vexation que j'ai pu subir à l'école ou ailleurs. Et le rire donc est resté pour moi quelque chose d'un peu énigmatique. Et comme la plupart de mes livres, à un moment ou un autre, finalement, je retourne sur mes pas et j'essaie de comprendre ce qui a pu se passer à cette époque-là, par exemple, pour que j'incommode à ce point des hommes ou des femmes qui étaient parfaitement des gens sympathiques, par ailleurs. Et donc c'est ça le point d'entrée du livre, c'est analyser le statut, enfin les usages en effet extrêmement différents du rire, qui va de la joie, la jubilation d'être ensemble, le rire relieur, etc. Il y a aussi évidemment un rire de déconstruction du monde, qui est très proche de l'anthropologie, c'est une manière de mieux le comprendre, de le retourner, mais il y a aussi donc ces rires de supériorité qu'évoque Baudelaire, qu'évoque Hobbes, qu'évoque Aristote également, beaucoup de philosophes. Il y a le rire de détresse qui me passionnait aussi, c'est-à-dire comment le rire est une forme de résistance, même quand tout est perdu, mais que par une sorte de force intérieure, on arrive à renverser les choses simplement par la grâce de son rire. Il y a les rires de la mondanité aussi, évidemment, le rire obligé et sans joie d'une certaine manière. Il y a le rire du timide qui est un peu perdu, qui ne sait trop quoi dire et qui se réfugie dans son rire. Il y a plein d'autres formes du rire, on y reviendra. Le rire du racisme, le rire du harcèlement, qui est évidemment... Moi qui travaille beaucoup sur les adolescents et un rire extrêmement présent sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez évoqué, mais aussi quand on harcèle un gamin à l'école parce qu'il est trop gros, trop petit, qu'il réussit trop bien à l'école et qu'on veut... Le bouffon, voilà, on le traite de bouffon et on va le piétiner en quelque sorte par le rire. Là, on retrouve l'idée de Baudelaire que l'homme mord avec le rire. Voilà, c'est toutes ces formes très ambiguës du rire que j'ai essayé de comprendre.
Ce rire de supériorité, vous dites que vous avez eu à le subir pendant votre enfance. Donc vous êtes en quelque sorte un traumatisé du rire, et c'est la raison pour laquelle vous avez voulu mener cette enquête.
C'était pas
Mais quand vous est-il arrivé, par exemple?
En fait, j'ai pas subi la supériorité des autres. J'étais, je crois, déconcertant, parce que lorsque j'étais un gamin, en fait, qui était très hyperactif, comme on dirait aujourd'hui, donc je l'ai échappé belle. C'était pas une époque où on était très attentif à ça. Donc j'avais plein de choses en tête à chaque fois, et j'étais très turbulent, comme on le disait, et je crois que j'avais souvent un sourire aux lèvres et je crois que les instituteurs de l'époque, les professeurs de l'époque voyaient ça comme une manière de les narguer, quoi, de se moquer d'eux. Et l'un de mes souvenirs les plus tragiques, mais vraiment qui me marque encore au fer rouge aujourd'hui, parce que je revois la scène, j'étais en cinquième, à l'époque d'ailleurs c'était une cinquième de transition, j'étais destiné à un cycle très court de formation professionnelle, et donc j'étais invité au tableau par un professeur qui nous faisait énormément peur. Un homme d'une très grande autorité, un homme infiniment plus âgé que nous, il nous faisait peur. Et j'étais au tableau, je ne savais pas du tout répondre à la question de ce prof, mais j'avais sans doute mon sourire, et il a cru vraiment que je le provoquais, que j'étais... et donc il s'est précipité vers moi pour me réprimander, et là j'ai cédé à un fou rire absolument irrésistible.
Ah, c'est vous qui riez à ce
moment-là? Ah oui, non, c'est le contraire. Moi je ne me suis jamais moqué de personne, je crois, mais en tous les cas, c'est lui pensait que je me moquais de lui, et sans le vouloir aussi, il a craché sur le tableau tellement il m'invectivait derrière nous, évidemment, il faut rappeler qu'il y avait 30 gamins hilares qui trouvaient la
scène. Qui eux se moquaient de lui, en quelque sorte.
Qui étaient sidérés de la scène, qui se moquaient à la fois de lui, qui se demandaient qu'est-ce qui m'arrivait soudain comme ça. Et donc je voyais ce crachat qui descendait du tableau. Je n'arrivais absolument plus à m'arrêter de rire, et en même temps, je voulais dire à cet homme, c'est absolument pas de vous que je ris, c'est une scène qui m'est restée vraiment, que je revis encore avec effroi aujourd'hui, parce que j'ai peur d'avoir fait mal à cet homme, et tout en étant, c'était vraiment aux antipodes de mon sentiment. Mais c'était ma manière de gamin, sans doute, de vaincre ma timidité, parce que j'ai eu plein de scènes comme ça quand j'étais plus jeune.
François Rollin.
Oui, pardon, je m'avise en vous entendant, pour la première fois de ma vie, que malheureusement la langue française n'a qu'un mot pour deux phénomènes qui s'appellent tous les deux le rire. Il y a le rire qui est une émotion, une sensation, donc je suis content, je ris, ça me fait du bien, il y a quelque chose qui est rentré dans mon cerveau, dans mes oreilles. Et un autre rire qui est un rire, qui est une déclaration, qui est une manifestation. C'est-à-dire, quand on dit « laissez-moi rire », ça ne veut pas dire que je vais éprouver l'émotion du rire, ça veut dire que je vais vous envoyer les signaux de ma supériorité. Ah, 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 mon pauvre Alain Finkielkraut. Ah, mais là, je ne ris pas. Je fais un bruit qu'on appelle le rire. Mais moi, je n'éprouve aucune joie. Donc, on est très loin du moment où le clown trébuche et où, là, effectivement, il y a la rupture dont parlait Bergson et où je ris, ça me fait du bien.
Oui, pas seulement, si vous voulez, parce qu'il y a des rires très spontanés. Pas seulement le ha ha ha, Finkielkraut, vous me faites bien rire, et très spontanés, qui ont quelque chose de barbare. Et d'ailleurs, vous y faites référence dans votre livre, David Le Breton, ce sont les mésaventures, par exemple, du philosophe handicapé, Alexandre Jolien.
Oui. Hein,
oui. Il se souvient des quolibets auxquels il était confronté dans sa jeunesse, oui. Des éclats de rire, il dit, des éclats de rire que mon corps suscitait, là où je passais, j'avais l'impression qu'il fallait me cacher pour ne pas susciter ce rire, qui me niait et qui a bien failli, disons-le tout net, me massacrer. Dans le bus, je tangue, c'est d'autres circonstances, six jeunes filles éclatent de rire, le véhicule s'arrête, les adolescentes sortent, je les suis brinque-ballant, je veux m'expliquer, nouveau ricanement, humiliation renouvelée, en colère, j'ai oublié Épictète et Spinoza ne m'a pas aidé. On a l'impression quand même que l'humour, c'est une tentative d'arracher le rire à cette spontanéité-là, de civiliser le rire, même s'il peut être aussi très, très spectaculaire. Et c'est un peu... cette voie que vous avez choisie, François.
Oui. Alors c'est ça. On va devoir chercher l'intention derrière le rire. Qu'est-ce que c'était, pourquoi faire? Est-ce que c'était parce que j'avais quelque chose à exprimer, mais quelque chose qui me concerne, qui ne fait de mal à personne, ou est-ce que j'avais l'intention de prendre une posture? Mais je crois aussi que il y a tout de même un phénomène qui a eu lieu pour moi il y a une quarantaine d'années et qui est très déterminant dans tout ça, et qui est la marchandisation du rire. Le rire, pendant longtemps, a été simplement quelque chose qui se saupoudre dans nos civilisations, dans nos sociétés, dans nos spectacles, dans nos vies. Et puis, à un moment donné, les commerçants se sont emparés de cette chose-là, et c'est devenu un produit avec des formats, avec des cases obligatoires. Maintenant, dans les théâtres, il y a une case humour. C'est totalement absurde. L'humour n'est pas une discipline. La danse, oui, il peut y avoir de l'humour dans la danse, ou ne pas y en avoir. Et donc, cette espèce de marchandisation qui a aussi créé des fonctionnaires du rire, des gens dont le job est de faire rire, même les jours où ils n'ont rien dans leur cœur qui ressemble à rire. Ça a beaucoup changé la donne.
Mais alors donc, vous ne vous définiriez pas, vous, comme un humoriste. Et vous avez pourtant eu des émissions, vous-même, oui, où votre rôle, votre mission était de faire rire. Donc, est-ce que vous étiez partie prenante de cette marchandisation ou est-ce que vous essayiez d'apporter autre chose?
Alors, j'ai essayé d'apporter autre chose, mais en étant victime. C'est-à-dire que moi, je ne suis qu'un tout petit pion sur cet échiquier. Donc, effectivement, au moment de gagner ma vie, les questions se posent différemment. Mais c'est vrai que très souvent, j'ai refusé, par exemple, d'être dans une émission donnée sur la culture ou sur Voltaire, d'être la case rire. En disant, ben non, moi je viens avec vous, nous parlons de tas de choses, et vous verrez que je dirai probablement des choses spirituelles et qui vous feront rire, mais ne me coincez pas, ne me restreignez pas à cette petite minute du rire, c'est-à-dire après tous ces propos intelligents, nous allons maintenant entendre une minute de rire, à vous François, et puis là, et d'ailleurs, quand le rire est marchandisé, formaté à ce point, les gens ne rient même plus au sens, ils rient simplement au signe, c'est-à-dire, attention, voilà le comique, et déjà, mais il n'a encore rien dit, et c'est autre chose qui se manifeste à ce moment-là, on n'est plus du tout en train d'essayer de transformer le monde avec cette capacité très grande qu'est l'humour, on est en train de manifester quelque chose de l'ordre d'une cohésion, d'un phénomène de groupe, tout ça, mais c'est tout à fait autre chose.
Mais David Le Breton, dans votre livre, il y a aussi un essai d'histoire du rire, c'est-à-dire que vous ouvrez tout l'éventail, des rires possibles, mais vous notez les principales étapes. Et par exemple, vous parlez du charivari ou du carnaval. Alors, qu'est-ce que c'était le charivari?
Ben, le charivari, c'était une forme de critique sociale populaire lorsque les lois non écrites de la société avaient été bafouées, souvent par des riches qui, par exemple, pouvaient épouser des femmes beaucoup plus jeunes, ou parfois c'était une femme qui se remariait avec un garçon infiniment plus jeune que lui. Et donc, il y avait des formes de protestation populaire des garçons. Le charivari est fondamentalement un phénomène masculin, évidemment. C'est la jeunesse masculine du village qui allait faire du bruit à un grand coup de casserole, de crécelle, etc. On allait protester de manière sonore devant la maison de la personne qui avait bafoué cet interdit. Et c'était parfois une manière de réclamer justice. La justice se faisait plutôt par le fait de payer une certaine somme à la jeunesse ou autre. Voilà. Mais le rire était évidemment extrêmement présent. On se moquait également de cet homme qui épousait une femme si jeune ou d'une femme qui épousait un homme si jeune.
Voilà. Mais justement, est-ce qu'on protestait contre une injustice ou est-ce qu'on se moquait de la différence?
Non,
c'est vraiment protester contre une injustice.
Oui, non, là, les historiens pointent vraiment que c'est une volonté de rétablir une justice sociale là où elle est mise à mal par la richesse, par l'arrogance des puissants. Le charivari, hein.
Le charivari, c'est ça. Oui. Bien, mais vous parlez aussi du rire dans les autres sociétés.
Oui.
Et là, c'est une question qui m'importe, c'est-à-dire que est-ce que la capacité de rire de soi est encore une spécificité de la culture occidentale ou est-ce que ça existe dans les autres cultures également et au même titre?
C'est David Le Breton. Le rire et l'humour aussi existent évidemment dans toutes les sociétés humaines et puis de manière très ancienne. Ce qui est frappant en revanche, c'est que le rire est toujours très marqué socialement, culturellement, historiquement, même il y a un humour de genre entre guillemets. Enfin, l'humour des hommes n'est pas l'humour des femmes, il y a un humour de classe d'âge, etc. Et quand on relit par exemple les vieux livres qui réunissent d'innombrables blagues, on est parfois très et qu'on les lit sur le fil de l'histoire, on est parfois très étonné. Les rires de l'Antiquité quitter aujourd'hui, ça ne nous fait absolument pas rire. Je me souviens de passer les pages à toute allure, je me disais, mais qu'est-ce qui les faisait rire à ce point-là?
Quand on lit... Mais la question que je pose, oui, c'est, est-ce qu'ils riaient d'eux-mêmes?
Oui, aussi, oui, non, ils riaient aussi
parce
d'eux-mêmes.
Parce que je lis cette phrase de Kundera, je vous la soumets à tous les deux, dans les Testaments trahis. L'humour, l'éclair divin qui découvre le monde dans son ambiguïté morale, et l'homme dans sa profonde incompétence à juger les autres. L'humour, l'ivresse de la relativité des choses humaines, le plaisir étrange issu de la certitude qu'il n'y a pas de certitude. Mais l'humour, pour rappeler Octavio Paz, est la grande invention de l'esprit moderne. Il n'est pas là depuis toujours, il n'est pas là pour toujours non plus. Kundera lit, en quelque sorte, l'apparition de l'humour, à l'émergence des temps modernes.
Est-ce qu'on pourrait
et même à l'apparition du roman. C'est pour ça que quand il dit l'homme pense, Dieu rit, il place le roman, l'esprit du roman, sous l'égide de ce proverbe. Donc ça veut bien dire que l'humour tel que le connaissons a peut-être une date de naissance et un lieu de naissance.
Alors, moi, je dirais, pour embrayer le pas à Milan Kundera, que c'est l'émergence de l'individualisation du monde, le fait que nous soyons des individus, donc détachés du lien du groupe, enfin de la communauté, je veux dire, et détachés de Dieu, ce qui nous donne également une sorte de marge de manœuvre sur le monde, qui va alimenter le rire. Mais en revanche, je pense qu'il faut quand même voir l'humour dans d'autres sociétés humaines, parce que j'en donne quand même d'ailleurs d'innombrables exemples. Cette manière de se moquer de soi, si elle est profondément rattachée à l'individualisme, elle peut exister quand même dans des sociétés communautaires, mais dans des marges quand même beaucoup plus restreintes.
Oui. Alors François Rollin, vous dites, l'humour aujourd'hui, c'est marchandisé. Mais le problème, semble-t-il, de l'humour à la radio et à la télévision, et notamment dans la Maison Ronde, c'est pas simplement la marchandisation, c'est l'orientation, si vous voulez. Quand une radio se décrète progressiste, elle ne rira pas du progressisme. Elle rira de la Manif pour tous, du Rassemblement National, elle tapera à bras grossis sur Gérald Darmanin, mais rien sur, par exemple, l'obsession raciale des partisans antiracistes de la diversité, rien sur l'écriture inclusive, rien sur cette présence à l'oral, parce que celles et ceux, toutes et tous, chacune et chacun, ça rend un certain nombre de discours inaudibles, et c'est risible. Donc, il y a aussi le problème idéologique, une sorte d'emprise idéologique du politiquement correct sur un certain type d'humour.
Tout à fait, mais je pense qu'il est profondément lié à la marchandisation dont je parlais, c'est-à-dire que en se marchandisant, en devenant un produit, l'humour a perdu sa fonction émancipatrice. Au départ, l'humour, c'est ce chemin de traverse dont parle Jean Kelevitch, c'est cette façon de sortir des sentiers battus, cette façon de penser en liberté, de penser différemment. À partir du moment où le produit est maîtrisé par des commerçants, ils peuvent d'ailleurs vous le commander, c'est-à-dire ils peuvent maintenant vous dire « faites-moi quelque chose de drôle sur Gérald Darmanin ». C'est absurde comme proposition. Et c'est pourtant ce qu'un commerçant peut vous demander en disant « bon, voilà, on fait une émission spéciale sur le budget et l'argent dans 3 semaines, faites-moi 3 minutes drôles sur Gérald Darmanin ». Et alors à ce moment-là, vous n'êtes plus en train de faire un travail d'humoriste, vous êtes en train de faire un travail très technique en disant « quelle ficelle pourrais-je employer ?» Et à ce moment-là, on rejoint très vite le mépris, la dérision gratuite.
Mais François Rollin, les humoristes... qu'on entend, n'ont pas besoin des commerçants pour dire ce qu'ils disent. S'ils sont, si vous voulez, les officiants, les fonctionnaires zélés de l'idéologie, c'est avant toute chose parce qu'ils y croient. Ils y croient fermement. Et c'est pour ça qu'ils désertent certains territoires du risible. Et les commerçants, après tout, c'est un peu le mérite de l'argent, si vous voulez. Ils sont fous. Au moins, l'argent, c'est ça. Je dirais pas que l'argent nous sauve, mais il s'en fout. Donc,
l'argent n'a pas d'idée.
Oui, l'argent n'a pas d'idée. Il n'a pas d'odeur et il n'a pas d'idée.
Mais moi qui connais quand même d'assez près la plupart des humoristes qui sont vivants aujourd'hui, je sais qu'un certain nombre ont choisi un créneau idéologique parce qu'il était porteur et parce qu'il correspondait à la demande de telle ou telle chaîne de télévision, station ou telle frange du public. Et lorsque vous, ensuite, vous les sondez de près, en réalité, ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Ils ne pensent pas comme ils ont, comme ils se sont exprimés. Ils pensent différemment. Mais bon, ben, il semblerait que ce ne soit pas étiqueté. Leur façon de penser n'est pas étiquetée comme quelque chose qui va faire rire. Alors, donc, on met de côté et puis on change. Mais je vous assure que par exemple, un confrère très célèbre que je me garderais bien de nommer. Moi, je l'ai toujours connu, légèrement de droite. Et puis à un moment donné, en travaillant sur France Inter, il s'est rendu compte que voilà. Et au fond, son côté d'ailleurs un peu marginal, un peu perché, a plu, et ça l'a conduit petit à petit à s'affirmer de gauche dans une opposition qui n'était pas naturelle chez lui. Donc je veux dire que tout de même, le fait que vous soyez employé, le fait que ça devienne une façon de gagner sa vie, ça c'est absurde. Et je parlais de Jean Kalevitch, il l'avait bien vu aussi. C'est absurde tout de même de dire que mon métier, mon job, mon boulot, ça va être de mettre mon petit grain de sel chaque matin, y compris lorsque je n'en ai pas l'inspiration, pour essayer de faire rire. C'est bizarre. D'ailleurs, j'ai accepté que vous me nommiez humoriste, parce que bon, il y avait beaucoup de bienveillance dans votre propos. Mais c'est vrai que je voudrais pas tellement dire que mon métier, c'est humoriste.
Vous êtes quoi, alors? Acteur?
Oui, quelque chose comme ça. Vous voilà. Acteur, non.
Et en
acteur,
même temps,
chroniqueur, éventuellement.
En même temps, vous êtes humoriste aussi. En tout cas, vous savez être très drôle. Et je pense à un moment qui n'était pas un sketch. C'est pour ça. Vous avez raison. C'est-à-dire, c'est plutôt l'irruption de l'humour dans une conversation normale.
Oui.
Et ça, c'est évidemment, c'est très agréable. Ça peut être salutaire. Et ça l'a été dans un échange que vous avez eu, François Rollin, avec Alain Afflelou. Alain Afflelou expliquait que la publicité n'avait plus le droit de mentir. Publicité mensongère n'était pas possible parce que la publicité est très sévèrement réglementée. Et vous lui avez fait une réponse que j'ai encore dans les oreilles, mais c'est pas à moi de la formuler à votre place, et qui était, me semble-t-il, pertinente, très drôle et corrosive, comme l'humour doit l'être quand il n'est pas précisément rattrapé par l'idéologie.
Je n'avais pas préparé tout ça, mais j'ai été amené à dire à ce très gentil Alain Afflelou que, contrairement à ce qu'il pense, la publicité, par essence, c'est le mensonge. Et que le seul fait de chanter la louange d'un produit qui, bien au-delà de ses mérites confirmés, est un mensonge. Donc il m'a dit, oui, non, on ne peut dire des choses que des choses que l'on peut prouver en publicité. Alors je lui dis, un mars et ça repart, prouvez-le-moi. Est-ce que vous pouvez me le prouver? Comme j'aurais pu lui dire, l'essentiel est dans l'actel. Non, c'est un mensonge, ça. L'essentiel n'est pas dans l'actel, pardon.
Vous parlez de la Citroën aussi, je crois.
Oui, je sais pas, la vie est plus belle en Citroën. Non, c'est pas vrai non plus. Vigore, il n'y a pas plus fort. Si, il y a plus fort, pardon. Donc tout ça sont des mensonges. Et d'ailleurs, je voulais lui dire gentiment, lui, il l'a un petit peu mal pris, mais je voulais lui dire gentiment parce que, au fond, il suffit que les gens aient compris que la publicité, c'est le mensonge, qu'ils le décodent, comme ça, avec humour, avec fantaisie, et à ce moment-là, ça ne fait plus de mal à personne.
Mais David de Breton, justement, vous l'avez dit, qu'il faut faire des distinctions entre plusieurs formes de rire. Vous notez aussi, et je vous en ai été très reconnaissant, que les nazis riaient beaucoup. Alors, faut toujours se méfier du point Godwin, hein,
oui.
Bien sûr.
Oui.
Bon, bien sûr, mais quand même, et c'est vrai, on a des images, hein.
Oui.
Ils coupaient les barbes dans les ghettos.
Oui, oui,
ils
oui.
coupaient les barbes des vieux juifs ou les papillotes et ça les faisait éclater de rire.
Oui.
Donc le rire était extrêmement présent dans la persécution.
Voilà.
Vous citez aussi Victor Hugo, un passage absolument magnifique, de L'homme qui rit.
Oui.
C'est un livre extraordinaire, mais c'est important, L'homme qui rit, parce que c'est un homme dont la bouche a été déformée par des forains qui ont imprimé sur lui un rire perpétuel. Ça donne énormément à penser. D'ailleurs, on se demande si certains chirurgiens esthétiques ne sont pas les successeurs de ces forains en élargissant les bouches. Mais enfin, c'est autre chose. Et il dit ceci. De toutes les larves que jette la bouche humaine, ce cratère, la plus corrosive, c'est la joie. Toutes les exécutions ne se font pas sur les échafauds. Et les hommes, dès qu'ils sont réunis, qu'ils soient multitudes ou assemblés, ont toujours au milieu d'eux un bourreau tout près, le sarcasme.
Voilà.
Ça, c'est quand même extraordinaire, oui. Le sarcasme.
Voilà. Le rire est une forme de violence également, voilà. Et on l'oublie très souvent. On en fait trop souvent l'éloge, d'une certaine manière, alors qu'il est une forme de l'écrasement symbolique de l'autre. Une manière de le piétiner, de briser sa face, comme on dit en sociologie, de le liquider en tant que personne. Et donc, c'est pour ça qu'il accompagne, évidemment, toutes les formes de racisme, toutes les formes de harcèlement, toutes les formes de domination. C'est une manière d'en rajouter une couche encore sur le sentiment de supériorité, d'arrogance. Voilà, le rire tue, en effet.
Oui, mais alors, moi, c'est ça, François, je suis toujours embarrassé parce que, à celui qui rit, au moment d'ailleurs où il coupe les barbichettes, j'ai envie de dire, non, monsieur, vous ne riez pas vraiment. C'est-à-dire que ce que moi j'appelle le rire, qui est cette chose qui vous donne de la joie, et qui est d'ailleurs très souvent synonyme de partage, de connivence. Je ris avec vous, et ça veut dire nous sommes frères. Et
Lorsque vous riez de quelqu'un, par contre.
Alors, quand vous riez de quelqu'un, moi, très souvent, je suis amené à dire, non, vous ne riez pas pour de vrai. Ça n'est pas vrai, vous n'éprouvez pas cette joie qu'apporte le rire, vous êtes en train de manifester quelque chose. Donc ce sont des sons, des syllabes que vous proférez dans un but qui n'est pas un but de plaisir, qui est un but d'agir, d'interagir sur l'extérieur. Je le dis aussi quelquefois, d'ailleurs, des gens qui, à un spectacle, par exemple, rient parce qu'ils ont payé leur place, parce qu'ils savent pas trop quelle attitude tenir, parce qu'autour d'eux, on rit aussi, et ils disent « ah, 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 mais là, je ne ris pas ». Et pourtant, vous ne pouvez pas démontrer que je ne ris pas. « Mais si, monsieur le Breton, je suis en train de rire. » Non, je ne ris pas, je n'éprouve aucune joie. Très difficile pour vous de m'épingler au moment où je n'en éprouve pas.
Mais vous ne pensez pas qu'il peut y avoir, hélas, une sincérité du rire barbare, quand même? Se moquer de la différence,
sardonique,
quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que bon, ça peut être le rire raciste, mais ça peut être aussi le rire progressiste, puisque ce rire progressiste ne supporte pas la moindre forme d'altérité. Donc tout d'un coup, vous n'êtes pas dans le sens, vous n'avez pas pris le train de l'histoire. Et ben donc vous subissez ce rire, et ça c'est pas les commerçants qui le demandent, c'est peut-être lié à une certaine idée que nous faisons de la démocratie. La démocratie, si c'est l'égalité, et donc si vous êtes par exemple opposé à la PMA ou à la GPA, vous êtes opposé à l'égalité, on vous tombe dessus, absolument, et le rire est là pour libérer, si vous voulez, cette violence face à ceux qui ne pensent pas comme il faudrait penser. Mais c'est pas le ha 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 du rire conformiste nécessairement.
Non, c'est vrai, c'est plus violent que ça, mais c'est en même temps un rire que je ne souhaite à personne. Moi, quand je parle de rire avec mes enfants, par exemple, ce qu'on a de plus cher au monde généralement, je parle de cette sensation agréable qu'on éprouve, de ce plaisir qu'il y a comme ça, et quelquefois d'ailleurs pour des raisons mal identifiables, quand on rit de choses inénarrables, après j'essaye de vous le raconter, non, je sais pas, à un moment donné, il a poussé la bouteille d'eau comme ça, et puis, bon, enfin, je peux pas vous le raconter, mais on a ri pour de vrai. Là, vous avez raison de m'opposer tout un pan du rire qui n'est pas fait pour éprouver du plaisir, mais qui est fait pour une autre raison. Voilà, l'intention est différente. Alors après, effectivement, je conçois que le besoin d'exprimer cette chose-là et cette méchanceté-là soit si fort que j'ai besoin de l'appuyer. Par exemple, si je veux le partager avec mon voisin, je dis, nous rions bien, monsieur le Breton et moi, nous rions bien de tous ces imbéciles. Mais, vous voyez que là encore, tout de même, je suis plus en train de proférer des sons qu'en train de vivre une émotion. Je suis plus en train de faire une déclaration.
Oui, moi je trouve, François Rollin, que là vous avez une définition trop normative, entre guillemets, du rire. C'est vrai, parce que vous l'associez à la jubilation, au plaisir d'être ensemble, à la solidarité, à la communion avec les gens qu'on aime. Mais le rire, effectivement, c'est pour moi qui suis anthropologue, mon travail évidemment c'est de relativiser finalement un certain nombre de notions qui nous paraissent évidentes. Mais comme disait Edmond Jabès, au cœur de l'évidence il y a le vide, il y a cet abîme. Et c'est plutôt cet abîme, moi, qui me passionne, c'est-à-dire explorer les ambiguïtés du rire, la violence du rire, et je ne veux pas faire de jugement de valeur. Ma tâche, c'est plutôt de comprendre, d'une certaine manière. Et je vois qu'effectivement, il y a des formes ultra-violentes du rire. Je suis convaincu que malheureusement, les nazis riaient, étaient dans une jubilation d'humilier, de
plaisir.
Détruire. Voilà, j'en suis convaincu. Parce que ça soudait également leur idéologie, leur conviction.
Et l'humour que vous pratiquiez, François Rollin, n'est pas simplement fondé sur le plaisir, c'est un humour de démystification. Mmh. L'exemple que vous en avez donné est très clair, et je trouve aujourd'hui qu'avec la prégnance de l'idéologie, cette démystification nous manque. Par exemple, je ne sais pas ce que vous auriez fait. Moi, j'ai lu dans Le Monde un article très intéressant sur les acteurs et du répertoire aujourd'hui, c'est-à-dire le titre général, c'était « Rôle dans la peau ». Longtemps absent des plateaux, les comédiens noirs incarnent désormais des rôles du répertoire classique, une manière de rendre le théâtre moins prisonnier de l'illustration, du naturalisme et des clichés. Bon, il n'y a pas de problème, sauf qu'il y a une phrase, enfin, je trouve comique. Et le comique inaperçu, c'est une ressource pour l'humour. Parce que il y a le directeur de la Comédie de Saint-Étienne qui dit ceci. Le théâtre français est resté longtemps attaché aux emplois. Une femme est une femme, un noir est un noir, mais c'est en train de changer. Alors, mais c'est en train de changer, si vous voulez, c'est à la fois très drôle et tout à fait effrayant, parce que c'est l'arbitraire absolu de la domination totalitaire qui fait que les choses pouvaient ne plus être ce qu'elles sont. Et comme le montre Jacques De Witte dans son livre « Le pouvoir de la langue et la liberté de l'esprit », nombre d'écrivains ou de poètes anti-totalitaires ont défendu la tautologie. Une chose est une chose. Et là, on pourrait dire, on pourrait imaginer un Roméo et Juliette tout à fait nouveau, c'est-à-dire par exemple Cécile de France dans le rôle de Roméo et Omar Sy dans le rôle de Juliette dans une mise en scène de Stéphane Braunschweig. C'est pas extrêmement drôle ce que je fais, mais j'ai pas votre talent. Simplement, il y a là une mine, si vous voulez, et une mine pour la démystification. Étant donné que vous êtes un démystificateur, le rire pour vous va au-delà du simple plaisir. François Rollin.
C'est pas faux, c'est-à-dire que là, j'avais tendance tout à l'heure à parler beaucoup de ce que j'éprouve et de ce que je vis, mais il faut aussi que je parle de mon activité professionnelle, de ce qui m'occupe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je dis des choses qui vont faire rire et qui ne me font d'ailleurs pas forcément tout à fait rire. On ne peut pas rire tout seul, ça j'en ai fait l'expérience. Il est impossible, seul, à sa table de travail, de rire. Quelquefois, une réminiscence vous amène un sourire, mais ça ne va pas plus loin. Et c'est vrai que donc, lorsque je travaille à mon ordinateur, dessus devant mon clavier, je suis en train d'écrire des choses dont je suis rigoureusement certain qu'elles feront rire le public auquel elles s'adressent et qui pourtant ne me font pas rire. Donc je suis en train de faire un travail relativement technique, bien que ce soit...
Ah, ça vous fait pas rire vous-même ? Parce que vous n'avez pas envie de rire quand vous avez trouvé ça face à Fleurot ?
Non.
C'est-à-dire que c'était génial parce que vous êtes pas sans rire. Donc, oui, mais... Vous riez pas, mais... C'est-à-dire même un rire intérieur.
C'est compliqué de dire que ça me fait pas rire parce que je l'écris, je vous dis c'est drôle. Voilà, je vous dis c'est drôle, si c'est drôle, et si vous me dites oh non, j'y crois pas, je vous dis c'est drôle, et d'ailleurs vous verrez que ça fera rire les gens auxquels ça s'adressera. Mais effectivement, moi je peux pas dire que je ris moi-même. Alors il y a peut-être ça, peut-être peut-on appeler ça simplement une espèce de jubilation. Donc je suis content de la façon dont j'ai agencé cette pensée et ces phrases pour et de la façon dont elles traitent le sujet qui était à traiter. Donc effectivement, je ne ris pas. Parce que c'est assez désagréable, les gens qui rient de leur propre plaisanterie. Hein.
Oui, c'est désagréable, mais d'un autre côté, ça, je ne sais pas si vous l'avez vérifié dans votre enquête, quelquefois, la blague, elle vous vient spontanément, sans que vous y pensiez, et vous riez de votre propre blague, comme si vous n'en étiez pas l'auteur.
Oui.
Moi, ça m'arrive, c'est vrai.
Oui, oui.
Je fais des blagues et je ris. Alors, c'est vrai, ma femme me regarde, mais pourquoi tu ris de tes propres blagues? Enfin, franchement, t'es prétentieux. Non! Mais c'est quelque chose qui m'est arrivé, si vous voulez, comme une sorte de petit démon.
Oui.
Qui n'est pas moi et qui a trouvé cela dans la conversation et donc je ris. Vous, ça vous arrive pas, François Rollin? Non, parce que vous êtes un pince sans rire.
Oui, oui. Non, c'est vrai, je ne ris pas beaucoup. Alors là encore, il y a des distinctions à faire parce que ceux auxquels je faisais le reproche, c'est des gens comme, par exemple, mon délicieux confrère Michel Boujna qui rit à la centième de leur spectacle. Donc, effectivement, ça, ils l'ont déjà dit 100 fois, donc ne me faites pas croire.
Ah non, non,
la centième fois, ils peuvent encore en rire. Donc, c'est simplement, là, ils vous montrent, c'est une façon de montrer le chemin au public en disant, hein, ouais, Patrick Timsit aussi fait ça, il met des espèces de scories ressemblant à du rire dans sa voix, pour dire, voilà, il faut en rire, c'est fait pour ça.
Faites pas ça.
Mais je crois oui, que parfois il y a des formes de dédoublement, parce que là, quand vous surprenez vous-même à rire, c'est que vous devenez votre propre spectateur d'une certaine manière. Et parfois, d'ailleurs, même il peut nous arriver de rire seul. Moi, je me souviens de moments merveilleux. Je lisais le Cervantes, le Don Quichotte dans la traduction d'Alexandre Vialade. Je me souviens même des fois, j'étais dans un bus et je trouvais certaines scènes tellement extraordinaires que je ne pouvais pas m'empêcher de rire, tout en pensant que j'allais vraiment passer pour un idiot dans le bus, mais j'avais l'impression d'être dans une sorte de communauté, de complicité d'une certaine manière avec Cervantes, avec le traducteur. Je voyais la scène devant moi, je n'étais plus tout seul d'une certaine manière. Par contre, quand on est tout seul dans sa chambre et qu'on se force par exemple à rire, c'est beaucoup plus délicat là, non.
Oui, non, c'est plus délicat.
Ça marche pas.
Pour poursuivre dans notre effort de distinction, je voudrais vous citer une opposition faite par Kundera. D'ailleurs, vous en parlez, David Le Breton, dans votre livre. Mais justement, c'est ce rire du plaisir. Et j'aimerais entendre aussi ce qu'en pense François Rollin. Dans une conversation avec Philippe Roth, à propos de son livre, justement, Le Livre du Rire et de l'Oubli, Kundera dit « L'homme a recours à la même manifestation physiologique, au rire, pour signifier deux attitudes métaphysiques différentes. » Que quelqu'un laisse tomber son chapeau sur le cercueil dans une fosse fraîchement creusée et l'enterrement perd tout son sens. On rit. Mais si deux amoureux courent dans les champs main dans la main et rient, leur rire ne doit rien à une plaisanterie, à l'humour. C'est le rire sérieux des anges qui expriment leur joie à être. Ces deux rires comptent parmi les plaisirs de la vie. Mais portés à l'extrême, ils révèlent aussi une apocalypse à deux visages. Le rire enthousiaste des anges fanatiques, tellement convaincus du sens de leur monde qu'ils sont prêts à pendre quiconque ne partage pas leur joie. Et l'autre, qui s'élève en face et proclame que tout est devenu absurde, que les enterrements eux-mêmes ont sombré dans le ridicule, que le sexe de groupe n'est plus qu'une pantomime comique. La vie humaine est bornée par deux abîmes. D'un côté, le fanatisme, de l'autre côté, le scepticisme absolu. Et le fanatisme rit, le scepticisme rit. Voilà.
Oui,
deux rires possibles, et deux rires antagonistes.
On retrouve évidemment l'ambivalence du rire, mais qui est déjà pointée par les philosophes depuis l'Antiquité, parce qu'Aristote en parle. Il y a à la fois le rire de cruauté, le rire de supériorité, mais il y a aussi le rire qui est celui cher à François Rollin, de la jubilation, d'être ensemble, etc. Cette idée-là, d'ailleurs, vous la retrouvez en hébreu à travers la distinction de deux traductions du mot rire, que j'ai plus en tête. On la retrouve également en grec, où il y a deux mots pour désigner ces deux modalités différentes du rire. Par contre, dans le latin, c'est risus, si ma mémoire est bonne, qui est univoque. C'est-à-dire le risus latin englobe d'innombrables formes du rire. En revanche, des auteurs comme Erasme, enfin tous les gens qui veulent civiliser le rire au moment de la Renaissance, rejettent avec fracas ce rire de cruauté et ce rire un peu excessif, et en revanche font l'éloge du rire de la légèreté, pour faire un clin d'œil aussi à Kundera, le rire de la légèreté de l'être, du plaisir d'être ensemble, etc.
Oui, mais le rire de la légèreté, c'est Kundera, à voir avec l'humour, et le rire fanatique, c'est autre chose. Hein. Le rire fanatique, c'est pas forcément la cruauté, puisque c'est deux amants enthousiastes qui rient dans les chants, etc. C'est le rire de la joie de vivre. Et c'est un rire qui, lui-même, selon Kundera, porte un certain danger, qui a un rapport avec le fanatisme. C'est un peu autre chose.
Mais là, à mon avis, il va trop loin, la Kundera, parce que moi, je ne parlerai pas de fanatisme dans le rire des amoureux ou dans le rire des amis. Le fanatisme, pour moi, il est plutôt dans le djihadisme, il est dans l'intégrisme.
Non,
et là, ce sont des gens qui ne rient pas, qui n'ont qu'un humour.
Non, mais c'est ça, le rire extatique dont il parle, le rire extatique, une espèce d'accord catégorique avec l'être, comme il dit à propos de Kitsch, François Rollin.
Oui, c'est vrai aussi que, par exemple, quand il parle d'enterrement, Kundera, on rit souvent, en effet, dans les cimetières, on rit aux enterrements. On ne rit pas pour se moquer ou pour dire que la cérémonie est ridicule. On rit pour échapper au poids et aux lois du réel qui nous accablent. Et on rit, et là je parlais tout à l'heure de capacité émancipatrice du rire, on rit pour se libérer de quelque chose, on rit pour extérioriser quelque chose qui nous fait mal et auquel on oppose à cette chose le rire. Voilà, là c'est une forme de défense. L'humour, d'ailleurs, sert souvent à ça, hein. C'est-à-dire que dans une situation douloureuse, soit nous nous renfrognons et nous nous prenons les coups de bâton en continuant d'offrir le dos au bâton, soit nous rions tout d'un coup. Et là, ça veut dire que nous nous transportons ailleurs. Il y a quelque chose de libérateur dans le rire. Et qui n'est pas sardonique, qui n'est pas tourné contre la cérémonie ou le non, qui est simplement nécessaire à notre bonheur du moment ou à notre bonne humeur au moins.
Oui, et mais je crois aussi que le rire a à voir avec le scepticisme et un scepticisme métaphysique. C'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure du rire progressiste, et le rire métaphysique, c'est celui de Suran, par exemple.
Oui. Hein?
Mmh. Ce matin, après avoir entendu un astronome parler de milliards de soleils, j'ai renoncé à faire ma toilette. À quoi bon se lever encore? C'est magnifique.
C'est, oui.
Et j'ai renoncé à faire ma toilette. C'est là aussi l'aspect de drôlerie. Ça introduit dans une réflexion métaphysique, en fait, très profonde, la prose.
Oui.
Et je trouve que le rire, c'est toujours la prose. La prose contre la pose, quoi.
Oui.
Voilà. Le rire est du côté de la prose contre la pose.
Vous rappelez Michel Tournier, d'ailleurs, oppose très très bien l'humour noir, l'humour justement qui joue avec la mort, qui joue avec la peur et qui la désarme également. Mmh. Il oppose à cet humour noir ce qu'il appelle l'humour blanc. Et c'est justement cet humour que vous évoquez tout de suite avec Cioran, c'est un humour beaucoup plus métaphysique qui nous renvoie à notre petitesse devant l'immensité du monde, la dérision finalement de toute chose, mais en même temps une dérision heureuse, parce qu'on est bien dans notre inachèvement, dans notre fragilité, parce qu'on se sent en même temps passionnément vivant.
Ah, on est un peu écrasé aussi.
Mais vous voyez que oui. c'est relativement oui, technique, hein, cette phrase de Suran, par exemple. Si je m'y étais attelé, j'aurais pu l'écrire aussi. C'est-à-dire que là, on va utiliser une ficelle très simple, qui est toujours génératrice de rire. On va essayer de plaquer quelque chose de rationnel sur le réel, qui lui, par définition, échappe à ce réel. Et donc, la logique serait de dire, lorsque j'ai appris qu'il y avait des milliards de milliards d'étoiles, j'en étais tout bouleversé. Là, ça ne fera pas rire. Alors, on va le décaler en disant, eh bien, je me suis dit, à quoi bon se laver les dents? Et là, on est dans Woody Allen. Mais vous voyez que là, c'est pas, y a pas une inspiration très lointaine. C'est relativement technique comme façon de faire.
Ah oui, c'est relativement technique et en même temps, ça dit beaucoup de choses sur la
condition
humaine.
Ah oui, bien sûr.
Avec la technicité qu'il faut. Elle a une autre objection à l'humour que je voudrais vous soumettre. Elle est, et c'est curieux, elle est émise par Raymond Queneau, un auteur vraiment drôle, oui, par excellence. Mais en 1938, il écrit un article intitulé « L'humour et ses victimes » qui est republié dans Le Voyage en Grèce. Et il dit ceci, que l'humour s'attaque à tout ce qui s'élève. Mmh. Et ce faisant, il fait cause commune avec la médiocrité. Il est une force qui tente à tout déprécier, à tout abaisser, et l'on y vient prêter aide. Les médiocres ne peuvent tolérer qu'il puisse exister parfois quelques grandeurs. Les humoristes, dit-il, non plus. Et c'est vrai qu'il y a une rage de désidéalisation du monde dans une certaine pratique effrénée de l'humour qui, disons, peut être questionnée.
Il s'agit effectivement de rabaisser. Où on voit l'émergence du corps. Hein, parce que là, dans l'exemple qu'a pris François Rollin, j'étais perdu dans l'immensité des étoiles et j'ai pas voulu me laver les dents. Et ça, effectivement, ça va nous faire rire. Mais c'est parce qu'il y a le surgissement soudain du corps. Et le rire, c'est toujours le corps, d'une certaine manière. C'est pour ça, d'ailleurs, que le rire a souvent été contesté par les différentes théologies. Parce que le rire, c'est du côté du bas, alors que le sourire, par exemple, à l'inverse, il est du côté de l'élévation, il est du côté de la spiritualité. Donc pendant très longtemps, pendant des siècles, les théologiens ont opposé le sourire, la légèreté du sourire, à la grossièreté du rire,
la vulgarité
du rire, qui est du populaire, finalement. Et quand on lit Erasme ou des auteurs comme ça du moment de la Renaissance, ce sont des gens qui veulent élaguer cette part du populaire dans la condition sociale, dans les rites de civilité.
Mais cette désidéalisation, elle est très présente dans la caricature, qui est une forme d'humour,
d'insister sur le corps,
mais aussi, et c'est là que je vais vous titiller un peu, François Rollin, j'ai dit que vous êtes un des co-inventeurs des guignols, mais les guignols qui m'ont beaucoup fait rire au début, je dois dire, Papin, P.A.P.1, c'était une trouvaille extraordinaire, le dialogue Papin-Cantonat, etc. Mais en même temps, j'ai vu quand même cette désidéalisation à l'heure, et les guignols contribuaient a installé ce climat de dérision dans lequel nous sommes et qui fait que les adolescents aujourd'hui sont souvent narquois, sont souvent goguenards, avant même de connaître quoi que ce soit du monde. Donc,
Mais il y a là, tout à fait,
il y a un problème.
Je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous. Il y a là une dérive que j'ai d'ailleurs dénoncée, sans trop de méchanceté, parce qu'après tout, il n'y a pas non plus mort d'homme. Mais j'ai bien dit qu'il faut, aussi d'ailleurs le relier à l'histoire de cette émission. C'est-à-dire que lorsque nous commençons, lorsque nous créons l'émission avec Benoît Delépine et Jean-Marie Gouriot, tout le monde s'en fout, personne n'y croit, il n'y a pas la moindre audience, il n'y a pas de budget, et donc nous pouvons exprimer des choses comme ça très librement. Puis petit à petit, l'émission devient un succès, elle est victime, comme on dit toujours, de son succès, et à ce moment-là, les blagues deviennent convenues, deviennent l'intention n'est plus tout à fait la même, et en effet, c'est devenu une machine à envoyer de la dérision de manière totalement désordonnée, et totalement inconvenante, d'ailleurs très souvent, dont malheureusement les victimes que les victimes applaudissaient. Alors là, on n'y comprenait plus rien. Donc,
oui, c'est vrai. Oui. Certains hommes politiques rêvaient d'avoir
leur marionnette. Donc, on disait donc. Et ça a permis d'ailleurs de remettre en question cette impertinence. Parce que qu'est-ce que c'est
l'impertinence dont
les victimes redemandent? Non, alors c'est que ce n'est pas de l'impertinence. C'est une autre façon de faire. Mais dans le projet de départ des Guignols, voilà, n'est pas celui-là. Le projet de départ est effectivement d'avoir une pensée différente, une façon de représenter le monde différente, un angle différent, très critique vis-à-vis des médias notamment. Et puis, petit à petit, encore une fois, le succès n'aidant pas, on est arrivé à cette espèce de machine à démolir. Et le rire d'ailleurs a changé de nature aussi d'année en année, c'est-à-dire que il est devenu de bon ton de rire devant les Guignols et on riait c'était drôle ce soir. Donc il n'y avait plus l'éclat de rire qu'on avait trouvé au moment de la boîte à coucou où il y a quelque chose d'absurde, de poétique. Petit à petit, c'est devenu un peu un outil politique et un outil commercial.
Outil politique et antipolitique aussi, c'est-à-dire que moi ce qui m'a gêné très tôt, c'est l'horaire. C'est-à-dire, c'était 8h05.
Oui.
C'était avant les infos,
il
y avait les Guignols. La marionnette préemptait la réalité.
Oui.
Et donc, ça créait un rapport à l'information et à la politique faussé. Et ça a contribué, justement, au désaveu des politiques aujourd'hui, voire de la politique comme telle. Mmh. C'est-à-dire, les politiques sont tous pourris ou sont tous ridicules, etc. D'où, d'ailleurs, chez certains, la tentation du simplisme. C'est-à-dire, on ne sait pas que les politiques s'affrontent à la complexité du monde. On pense que le monde est simple et qu'il suffirait de se passer des politiques pour que tous les problèmes soient résolus. Mais je trouve que la dérision a contribué à ce climat que l'on pourrait dire délétère.
Ouais, parce qu'il y a toujours une clientèle pour le populisme. Donc ça fait très longtemps que les chansonniers nous disent le ministre, qu'est-ce que c'est? C'est un feignant qui se repose dans son bureau en mangeant du caviar. Ça, c'est de la démagogie et du populisme. Et le public en est demandeur, il en est friand. C'est bien vrai.
Oui, mais c'est là la différence, c'est-à-dire que les chansonniers ils étaient dans des cabarets et maintenant c'est la télévision. Donc le pouvoir de la télévision décuple aussi la force de ce rire-là. Vous y avez été confronté dans votre enquête, j'imagine.
Oui, absolument. Et puis peut-être d'ailleurs dissipe la force corrosive du rire, effectivement.
Oui.
On vit dans un contexte d'humorisme obligatoire. Il y a même des émissions où on enregistre carrément les rires comme si les gens étaient trop bêtes pour savoir à quel moment ils doivent rire. Quand on participe parfois, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie, je n'ai plus jamais recommencé, mais à certaines émissions, j'étais vraiment tout jeune, vous avez quelqu'un qui dit, attention, quand le présentateur dira ça, vous applaudirez tous. Et je me rappelle même d'une émission à laquelle j'avais participé, j'étais tout jeune, où j'ai répété trois fois, on m'interrogeait sur les patients du risque, j'ai dû répéter trois fois mon explication parce que les rires n'avaient pas été... Ils ne riaient pas de moi, évidemment, mais ça n'avait pas été suffisamment bien calé, donc il fallait refaire toute une séquence de l'émission. Voilà, c'est une disqualification du rire, d'une certaine manière.
Alors, l'émission va bientôt se terminer, mais moi, je voudrais vous dire, j'ai une grande admiration pour François Rollin, c'est une invitation, c'est pour ça que je l'invite, mais j'ai aussi découvert une humoriste dont je voudrais parler un instant devant vous, parce que j'ai découvert il y a peu, c'est Blanche Gardin. Parce qu'il me semble qu'elle va à l'encontre du politiquement correct, justement. Donc, elle explore les territoires du risible, laissés de côté par le rire obligatoire dont vous avez parlé l'un et l'autre. Et en même temps, l'humour chez elle, c'est un peu l'auto-ironie, c'est-à-dire elle rit d'elle-même. J'ai vu un spectacle, enfin sur DVD, où elle parle de sa vie. La vie terrible qu'elle a, parce qu'elle est seule depuis 4 ans, elle n'a pas d'homme, etc. Ça donne des résultats extrêmement drôles, parce qu'elle manie l'obscénité avec un art consommé. Alors, est-ce que c'est une possibilité, comme ça c'est un peu Louis C.K. aux États-Unis, est-ce que c'est une possibilité de l'humour? Est-ce que cet humour-là est en train de reprendre le dessus,
François? Alors, je l'espère. Blanche Gardin est une personne qui est... C'est une amie, une personne que j'admire beaucoup et à qui j'ai exprimé mon soutien très très tôt. Et effectivement, qui a créé une rupture par rapport à toutes les femmes commis qui tenaient le même discours. Chez elle, il y a... Et pourtant, ça parle de cul, donc c'est pas, la question n'est pas là.
Non,
la question est qu'il y a là une intelligence, une sincérité aussi.
Une sincérité, voilà.
Parce qu'elle fait la différence. Oui, tout à fait. Oui,
elle est présente.
Bah, parce que
et elle rit d'elle-même.
Très souvent, effectivement, les comiques sont des gens qui vous disent, nous sommes tous formidables, moi, vous qui êtes avec moi, et le reste du monde sont des médiocres et des crétins et des cons, et nous allons donc en rire ensemble. Blanche fait un travail différent, puisque la première personne à qui qu'elle dénonce comme ridicule, c'est elle-même.
Oui.
Et avec, mais je crois, c'est difficile, c'est tellement fort ce qu'elle fait, Blanche Gardin, que c'est difficile de trouver où sont les ficelles, où est-ce que techniquement ça marche. Moi, je crois le plus fort, ça marche parce que ça vient, c'est quelque chose qui vient de très loin, des profondeurs de ses tripes et de son cerveau, et qui a là-dedans une humanité qui nous bouleverse tous, que nous soyons femmes ou que nous ne le soyons pas, ce qui est notre cas tous les trois.
C'est beau, hein, un humoriste qui rend hommage à une autre humoriste.
Oui,
c'est un grand moment. Et vous la connaissez, David Le Breton?
Non, je dois confesser que non. Pardonnez-moi.
Vous ne la connaissez pas?
Je vais rectifier cette erreur, évidemment.
Ah, il faut que vous rectifiez cette lacune très vite, oui. Parce que effectivement, elle complétera votre intelligence du rire. En tout cas, je voudrais vous remercier tous les deux.
Merci
pour
beaucoup.
Cette conversation passionnante. Alors, je rappelle, David Le Breton, le titre de votre livre, Rire, une anthropologie du rieur, et il est publié, comme la plupart de vos livres précédents, chez Anne-Marie Métayer, un éditeur auquel vous savez être
fidèle.
Et François Rollin, votre dernier ouvrage, je crois, c'est Les dictées loufoques du professeur Rollin, et il est publié au Seuil, dans la collection Point, ou plus précisément Le goût des mots, une collection dirigée par Philippe Delerme.
Précisément.
Vous trouverez toutes les références bibliographiques de l'émission sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et écoutable à vie. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Claude Niort, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.